L'actualité des Alpes du Sud et le coup près devrait tomber aujourd'hui pour les stations de ski.
Les remontées mécaniques pourront-elles prendre du service face à la situation sanitaire? Plusieurs scénarios seraient envisagés par le gouvernement, mais les professionnels demandent aujourd'hui plus de visibilité.
Dans les Alpes de Haute-Provence, le manque à gagner pour ces fêtes de fin d'année est de 18 millions d'euros.
Désormais en mise sur les vacances de février, il faudra que les stations puissent accueillir. C'est vital pour le chiffre d'affaires de plusieurs secteurs.
5,1 millions d'euros aborderont les 6 départements de la région PACA jusqu'en 2027.
C'est le fameux CPER, le contrat de plan État-région qui a été signé hier à Toulon entre Renaud Muselier et Jean Castex.
Et puis la Grande-Bretagne confinée, Karim Guerfi voit s'éloigner encore un peu son combat contre Lee McGregor.
Le boxeur manosquin ne pourra pas défendre immédiatement sa ceinture européenne des poids coqs en raison de la situation sanitaire. Météo.
Avec un ciel encore souvent nuageux en début de journée sur les Hautes-Alpes, les éclaircies se font progressivement de plus en plus franches. Côté température, de moins 1 à 3 degrés en vallée. Ça reste froid pour les Alpes de Haute-Provence. Journée souvent bien ensoleillée. Avant que le ciel là se voile en fin de journée, à noter toutefois un débrouillard givrant ce matin sur le pays de Fort-Calquier et le plateau de Valensole. Les températures maxi pour aujourd'hui, ça s'échelonne de 1 à 4 degrés. C'est long, cela commence même à être très long. Les bars, restaurants ne rouvriront pas le 20 janvier.
C'est en petit comité que le Premier ministre Jean Castex a acté ce nouveau report qui devrait être officialisé dans quelques jours. Quant aux stations de ski et leurs remontées mécaniques qui sont restées au point mort pour les fêtes de fin d'année, le couperet devrait tomber aujourd'hui. L'exécutif rendra sa décision ce mercredi après le Conseil de défense sanitaire. Plusieurs scénarios seraient envisagés, soit rouvrir les stations de sport d'hiver en ne maintenant que le couvre-feu, soit ouvrir de manière différenciée les stations selon le niveau de circulation du virus sur les territoires. Dans ce dernier cas, celles se trouvant sur des régions particulièrement impactées resteront fermées. Il n'est pas non plus exclu de maintenir les portes closes tout en fixant une nouvelle date de revoyure. Bref, en altitude, on est dans le flou et les professionnels demandent aujourd'hui plus de visibilité.
Et d'ailleurs, Domaine Skiable de France presse le gouvernement pour une ouverture le 7 janvier.
En tout cas, dans les régions où la situation sanitaire le permet, à 4 semaines des vacances d'hiver, les acteurs de la montagne souhaitent utiliser cette saison basse pour montrer par l'exemple que les protocoles sanitaires mis en place sont efficaces et que le ski n'est pas une activité à risque. Les propositions sont concrètes, estime Alexandre Molin, le président des Domaines Skiables de France. Pour rappel, les territoires montagnards ont perdu 1,6 milliard d'euros de chiffre d'affaires lors des vacances de Noël, une perte qui s'ajoute aux 1,4 milliard de mars dernier lors du premier confinement.
Les vacances de Noël auront été en tout cas très particulières dans les Alpes de Haute-Provence.
C'est le constat de Julien Martellini, le directeur de l'Agence de développement économique et touristique du département. Le bilan est à la baisse, 27% de nuitées touristiques en moins pour décembre. C'est même une diminution de 37% rien que pour la semaine de Noël. Si le pic de fréquentation a été atteint lors de la nuit de la Saint-Sylvestre avec 80 000 visiteurs, on est bien en deçà des près de 115 000 touristes présents l'an dernier. Et le manque à gagner est estimé à 18 millions d'euros pour le département. Même si tout n'est pas négatif, puisque certains ont pu tirer leur épingle du jeu. Julien Martellini.
Il y a eu une prise d'assaut des résidences secondaires, c'est une évidence. Quelques visiteurs qui venaient de l'extérieur, mais de façon assez limitée. Quand on regarde le bilan de façon un peu globale de ces deux semaines, l'impact effectivement de la fermeture des remontées mécaniques est majeur. Et on sait que dans nos stations, il y a plus de 380 entreprises dans le département qui sont directement dépendantes de ces remontées mécaniques. Après, si on regarde les choses de façon plus positive, en tout cas, on peut quand même souligner la mobilisation des professionnels de la montagne qui, dans ce contexte compliqué, ont rivalisé d'imagination pour proposer aux visiteurs et aux personnes présentes à la station des activités. On peut citer les sites nordiques qui ont bien fonctionné, le ski de randonnée ou les raquettes avec des niveaux d'enneigement qui étaient quand même exceptionnels, et des nouvelles activités comme la luge à Pralou qui a très bien marché et qui est aussi présente par ailleurs dans le Val d'Alos.
Désormais, les professionnels sont suspendus aux annonces du gouvernement pour connaître donc cette date d'ouverture des remontées mécaniques, en sachant que le mois de février est majeur puisque 40 à 45% du chiffre d'affaires se joue sur cette période.
Si le mois de janvier sera effectivement compliqué, pour autant, et notamment les week-ends, il y a des activités qui restent accessibles et donc ça, il faut le rappeler. Quoi qu'il en soit, la suite de la saison va être forcément liée, comme depuis le début, au contexte sanitaire. Le poids du tourisme dans les Alpes-de-Haute-Provence est en règle générale estimé à peu près à 30% de notre PIB. C'est un peu moins que dans les Hautes-Alpes, parce que vous le savez, on a aussi un tissu industriel qui est peut-être un peu plus dense qu'on a dans les Hautes-Alpes. Mais tout est lié au tourisme, le commerce, les activités de service, le bâtiment. Tout ce qui va impacter de façon négative l'activité touristique aura des conséquences bien plus larges sur l'ensemble de notre économie. Et donc, on est vraiment très inquiet, effectivement, pour la suite.
Des propos recueillis par Aurore Valory. Enfin, sachez, concernant la campagne de vaccination, qu'elle débutera aujourd'hui dans les Hautes-Alpes avec la vaccination cet après-midi d'un résident de l'EHPAD Muret au sein du centre hospitalier de Gap.
Dans le reste de l'actualité, la battue pour tenter de retrouver Patrice Guigneux n'a pu se dérouler hier à Mison.
En raison des conditions météorologiques, les volontaires n'ont pu rechercher cet Isérois de 53 ans porté disparu depuis le 27 décembre dernier. L'appel à témoins se poursuit. Si vous avez le moindre élément, vous devez joindre la gendarmerie de Sisteron au 04 92 61 00 33 ou composer le 17. Justice dans ce journal avec le couperet qui est tombé pour les occupants de chez Roger. Ces bénévoles qui squattent depuis le mois d'août dernier un bâtiment appartement au maire de Gap, Roger Didier et sa famille, pour y accueillir des exilés, devront partir au plus tard le 5 juillet. Dans un communiqué, le groupe d'opposition municipale Ambition pour Gap demande à ce que des solutions pérennes soient trouvées.
5,1 milliards d'euros irrigueront jusqu'en 2027 les 6 départements de la région PACA.
Le contrat d'avenir, ce fameux CPER, contrat de plan État-région, a été signé hier à Toulon entre le Premier ministre Jean Castex et Renaud Muselier, président de l'Assemblée marseillaise. Autour d'eux, les présidents des conseils départementaux des Hautes-Alpes et des Alpes d'Haute-Provence, ainsi que ceux des associations des maires des Alpes du Sud. La feuille de route sur 6 ans est donc fixée, avec un financement de 5 milliards 100 millions d'euros à part égale entre l'État et la région. Le but est simple, soutenir des projets structurants pour l'avenir du territoire autour de 12 axes essentiels, dont 9 concernent directement ou indirectement les Alpes du Sud. Renaud Muselier.
Il y a 1,6 milliard pour avoir une COP d'avance en région sud. Deuxième axe, 707 millions d'euros pour l'équilibre et la solidarité des territoires, soutien aux espaces urbains et ruraux. Troisième axe, 587 millions d'euros pour l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation. Quatrième axe, 449 millions d'euros pour la santé, télémédecine, lutte contre les déserts médicaux, soutien au SAMU. Cinquième axe, 148 millions d'euros pour le tourisme, la mer et le littoral. Sixième axe, 94 millions d'euros pour la culture, patrimoine, grands équipements et grands festivals. Septième axe, 85 millions d'euros pour le développement économique et l'aide des entreprises. Huitième axe, 831 millions d'euros pour la formation professionnelle et l'égalité hommes-femmes. Dixième axe, 44 millions d'euros pour l'aménagement des massifs alpins. Donc on a un contrat avec des axes prioritaires, avec un mode d'emploi opérationnel qui commenceront avec les premiers comités réunis dès janvier, au niveau stratégique régional, avec une sélection départementale et un arbitrage qui reviendra au préfet de région et au président de région.
Avec son slogan « On éclaire l'avenir », Renaud Muselier lance également une démarche au niveau continental. Dans le cadre du plan de relance européen de 750 milliards d'euros, il espère pouvoir prochainement négocier une enveloppe de 10 milliards au bénéfice de la région PACA.
Elles ne font désormais plus qu'une. Les deux plateformes initiatives Alpes de Haute-Provence et Sud-Hautes-Alpes ont fusionné le 31 décembre dernier.
Une démarche progressive qui aura mis plus de 2 ans pour aboutir et qui a fait l'unanimité dans les services, selon les responsables. Et désormais, la plateforme initiative Alpes-Provence étant en état de marche pour aider à la création, la reprise et l'extension des petites entreprises, des commerçants ou des artisans. Elle regroupe 3 entités autour de Gap, Manosque et Digne-les-Bains et agit sur 12 communautés de communes. Jean-François Gonidec est le président de cette nouvelle plateforme. Il explique les raisons de ce rapprochement.
Napoléon était certainement un grand général, mais ce n'était pas un grand géographe. Et donc, le partage entre le 04 et le 05 est un partage un peu théorique. On a en fait des bassins économiques qui s'imbriquent l'un dans l'autre. Il y avait une raison d'efficacité, hein, tout simplement, vis-à-vis des créateurs, des élus, des représentants administratifs, à travailler en fait de façon beaucoup plus unifiée. Il y a une deuxième raison qui est assez simple, qui est la géopolitique de notre belle région sud. Parce que dans notre belle région sud, quand on a parlé de Marseille, Toulon et Nice, on a un petit peu de mal à parler en fait de l'arrière-pays. Notre plateforme regroupée, elle va avoir en fait une activité qui est équivalente aux deux plus gros arrondissements de Marseille. Pour peser dans les décisions et lever notre doigt et ne pas être ignoré, on avait quand même intérêt un petit peu à s'unifier.
Avec la crise sanitaire, la plateforme doit donc faire face à la crise économique et amplifier son action pour épauler ces petites entreprises. Elle a donc été mandatée depuis le premier confinement pour gérer les fonds Covid résistance. Autre objectif, passer en 2 ans le taux d'entreprises créées sur les territoires et aidées par initiative de 23 à 26% et notamment dans les zones rurales.
On a une volonté très très forte en fait de centrer notre action sur des cibles plus distinctes. D'abord, qui représente en fait nos territoires, hein, clairement, puisqu'il y a une vraie volonté hein, d'aider en fait les zones rurales. Parce que dans l'aménagement du territoire, je vais pas revenir au gilet jaune, je vais pas revenir à tout ce qui s'est passé, mais clairement, on voit bien qu'il y a aujourd'hui un vrai problème d'épaulement en fait sur les territoires ruraux. Et donc, comme je dis toujours, hein, la fermeture du commerce unique dans un petit village, c'est un drame pour le maire. C'est un drame, en fait, pour les habitants, mais c'est un drame pour le maire. Et nous, on a une vraie mission, en fait, d'appui et d'aménagement autour, en fait, de ces zones rurales. Donc, on va aussi beaucoup travailler dans les mois à venir autour, en fait, de cette volonté.
Un dossier retrouvé sur alpe1.com.
Alpe 1 Sport. Et la passe de 3 pour Mathieu Baumel.
Après sa victoire lors du prologue et de la seconde spéciale, le copilote Manosquin et son coéquipier Nasser Al-Attiyah ont remporté ce mardi les 629 km de la troisième étape du Dakar autour de Wadi Al-Dawazir. Le bas alpin prend ainsi la seconde place du classement général et rattrape le temps perdu lors de la manche inaugurale de dimanche en revenant à 5 minutes du leader français Stéphane Peter Hansel. De son côté, le Valençolais Max Delfino remonte également grâce à sa 22e place du jour et pointe désormais à la 23e position du général avec son pilote Michael Pisano.
Et puis le Vendée Globe où le classement reste inchangé.
Le skipper briançonnais Damien Seguin reste 4e et depuis qu'il a passé le Cap Horn, les conditions ont bien changé. Du soleil, des températures supérieures à 10 degrés et une mer bien plus calme.
Voilà, c'est la deuxième vraie journée dans l'Atlantique Sud après le passage du Cap Horn. Et après avoir quitté l'océan Pacifique, et comme vous voyez, c'est une superbe journée. Les conditions de mer sont beaucoup plus maniables. Le soleil est de retour, les températures passent au-dessus des 10 degrés. Et ça va continuer à monter, donc voilà. Et c'est une journée magnifique de navigation. Voilà, un vrai bonheur d'être là. Et encore merci pour tous vos messages d'encouragement après ce passage du Cap. Et voilà, comptez sur moi pour me donner à 100% sur la suite, qui n'est pas très simple. Mais voilà, comptez sur moi.
Romain Attanasio, quant à lui, reste 14e. Et puis, direction les rings, qui devront attendre pour Karim Guerfi. Le boxeur Manosquin ne pourra pas défendre immédiatement sa ceinture européenne des poids coqs. En raison de la situation sanitaire qui s'est aggravée en Grande-Bretagne, son combat avec l'Écossais Lee McGregor, qui devait se réaliser à South Kirby, a été reporté. Une décision prise par la British Boxing Board of Control, qui oblige le Manosquin à ronger son frein alors qu'il était fin prêt pour ce duel du 22 janvier prochain. Pour rappel, cet affrontement devait initialement avoir lieu le 11 novembre dernier, mais avait été une première fois annulé après un test positif à la Covid-19 du boxeur britannique.
L'actu des Alpes du Sud continue sur alpe1.com, Facebook et Twitter.